la fuite en Égypte. Les mages sont partis. Joseph, que les dernières paroles des mages ont rendu inquiet, termine une dernière commande et la livre dès le lendemain à la grande surprise du client. Puis, après le souper, Joseph et Marie font le point sur la situation. « C'est vrai, dit Joseph, trop de monde nous connaît ici. Peut-être faudrait-il déménager, aller dans un autre village. L'enfant ne doit pas être en danger. » Marie est d'accord, mais où aller ?
À Nazareth, suggère Marie.
Peut-être, mais il faudrait rentrer vite et incognito. À Nazareth, on ne connaît rien de l'enfant, ni de la manifestation des anges au berger, ni de la venue des mages, dit Marie. Joseph soupire, ce n'est pas certain, car trop de caravanes passent par ici, venant ou allant à Jérusalem et ailleurs. Ce soir, je ne sais vraiment pas quoi faire, mais Dieu nous fera signe.
Comme tu veux, dit Marie.
Mais en attendant, nous devons prier, puis nous irons nous reposer. Joseph alors entonne quelques passages du psaume 54. Ô Dieu, sauve-moi par ton nom et rends-moi justice par ta puissance. Ô Dieu, écoute ma prière, prête l'oreille aux paroles de ma bouche, car des étrangers se sont levés contre moi. Mais voici que Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme, il fera retomber le mal sur mes adversaires. Je louerai ton nom, Yahvé, car il est bon, il me délivre de toute angoisse. Joseph et Marie ont longtemps prié. Puis, ils se dirigent chacun vers son coin de repos, mais comme malgré eux, ils rangent un peu leurs affaires. Enfin, ils se couchent et s'endorment rapidement, d'un sommeil profond et réparateur. Soudain, Joseph est réveillé. Un ange est là qui lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je t'avertisse, car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. » De Matthieu, chapitre 2. Joseph se lève et réveille Marie. Elle doit tout de suite préparer l'enfant. Malgré la nuit, Joseph s'en va trouver sa logeuse. Il lui explique la cause de son départ précipité et lui achète deux ânes. La logeuse croit immédiatement tout ce que lui dit Joseph, car elle a été très impressionnée par tout ce qui s'est passé ici depuis quelques jours. De retour auprès de Marie, Joseph dépose tous les vêtements préparés dans les besaces posés sur le dos des ânes. Il y range aussi ses outils. La maison est maintenant toute nette. Ils peuvent partir et se retirer en Égypte où ils resteront jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce qu'avait dit le Seigneur par le prophète « J'ai rappelé mon fils d'Égypte ». À la dérobée, Joseph essuie une larme. Marie est très triste. Que va-t-il leur arriver? Est-ce cela le glaive qui lui a été promis par Siméon? Ne pas savoir où aller pour sauver son fils à tout prix? Malgré son angoisse, le petit groupe marche relativement lentement car les ânes sont très chargés. Mais nos amis sont sous la protection de Dieu et déjà ils murmurent quelques phrases du cantique de Tobie. « Vous êtes grand Seigneur dans l'éternité et votre règne s'étend à tous les siècles, car vous châtiez et sauvez, vous conduisez au tombeau et vous en ramenez, et il n'est personne qui puisse échapper à votre main. Célébrez le Seigneur enfant d'Israël et louez-le devant les nations. » Joseph, en raison des besoins de son métier, était déjà allé plusieurs fois en Égypte. Il n'est donc pas inquiet sur la route à suivre. Il sait qu'ils doivent d'abord passer par Hébron, une ville très sainte. Là, il espère qu'il sera en sécurité au moins pour quelques jours. Il trouvera aussi un refuge pour sa famille. Ensuite, quand Marie sera un peu reposée, ils repartiront et iront jusqu'à Beersheba. Il connaît bien la route. Ensuite, pense Joseph, le mieux serait peut-être d'aller jusqu'à Nitsana. Certes, le chemin est long, accidenté et désertique, mais c'est le chemin le plus court. Les caravanes qui passent continuellement lui assureront une certaine sécurité. Et puis Nitsana n'est pas loin de l'Égypte, une petite journée de marche et ils seront enfin en sécurité. Tout se passa comme Joseph l'avait prévu. Leur fuite leur demanda environ une quinzaine de jours, mais tout s'était passé pour le mieux. Marie avait été remarquable, ne se plaignant jamais, et le petit avait été adorable.
Il avait particulièrement aimé l'âne qui le portait quand ses petites jambes étaient trop fatiguées. Et puis parfois, ce petit enfant semblait mieux connaître le chemin que les adultes. Ainsi, à plusieurs reprises, il avait fait comprendre qu'il fallait quitter la route des caravanes pour profiter d'un peu de calme dans un endroit particulièrement beau. Qu'était donc ce petit qui savait tant de choses ? Joseph et Marie s'étonnaient et conservaient toutes ces choses dans leur cœur. Enfin, voici l'Égypte. La famille de Joseph s'arrêta dans un petit village. Là, ils rencontrèrent quelques compatriotes exilés comme eux. Joseph fut bien content. Ainsi, il ne serait pas complètement dépaysé et il pourrait prier dans la minuscule synagogue qu'on leur indiqua. On informa aussi Joseph que, non loin de là, les Égyptiens avaient entrepris d'importants travaux. Ils pourraient facilement trouver du travail. Comme il y avait un petit bosquet tout proche, Joseph alla se procurer des branchages avec lesquels il construisit une petite hutte, pas trop loin d'un point d'eau. La famille s'installa et une nouvelle vie commença pour Joseph et Marie et Jésus. La Sainte Famille s'était bien organisée. Elle pouvait aller prier dans la petite synagogue avec des compatriotes et Joseph avait trouvé un travail intéressant. Il était très content. La Vierge Marie s'occupait de son enfant et de quelques autres qui n'avaient plus de maman. Ainsi, Marie apprenait à prier et à vivre selon Dieu à ses pauvres petits abandonnés. Quel bonheur pour eux! Par contre, Joseph ne pouvait plus retourner à Nazareth. D'une part, c'était beaucoup trop loin. Et de plus, il n'osait pas risquer de provoquer des questions indiscrètes ou des bavardages dangereux. Mais heureusement, il recevait régulièrement, grâce aux caravanes, des nouvelles de Jérusalem et de son pays, et cela le réconfortait. Le massacre des innocents. Tout semblait se passer aussi bien que possible pour la famille de Joseph en exil en Égypte. Mais parfois Joseph se demandait s'il avait bien compris le message de l'ange ou s'il avait été trompé par une illusion. En voici qu'un jour, un de ses compatriotes, caravanier, lui demanda s'il avait eu des nouvelles de Bethléem. Ce qui venait de se passer était épouvantable. Hérode, voyant que les mages s'étaient joués de lui, entra dans une grande colère et il envoya tuer tous les enfants qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, depuis l'âge de 2 ans et au-dessous, d'après le temps qu'il connaissait exactement par les mages. Alors fut accompli l'oracle du prophète Jérémie, disant « Une voix a été entendue en Rama, des plaintes et des cris lamentables. Rachel pleure ses enfants, et elle n'a pas voulu être consolée, parce qu'ils ne sont plus. » Extrait de Matthieu chapitre 2. Joseph fut atterré. Il connaissait bien en effet ce passage du prophète Jérémie, mais il ne l'avait jamais compris. Ainsi parle Yahvé, une voix a été entendue à Rama, des lamentations et des pleurs amers, Rachel pleurant ses enfants, elle refuse d'être consolée parce que ses enfants ne sont plus. Ainsi parle Yahvé, retiens ta voix de gémir et tes yeux de pleurer, car ton œuvre aura sa récompense, dit le Seigneur. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour tes derniers jours, dit le Seigneur, et tes enfants retourneront dans leurs frontières. J'ai entendu Éphraïm qui gémit dans l'exil. Tu m'as châtié, j'ai été châtié comme un veau indompté. Fais-moi revenir et je reviendrai, car tu es Yahvé, mon Dieu. Extrait de Jérémie, chapitre 31, 15 à 19. Joseph ne pouvait pas comprendre cette page des Écritures. En effet, le prophète est d'abord tout joyeux lorsqu'il raconte le bonheur et l'abondance dont son peuple bénéficiera plus tard lorsqu'il se sera converti. Et soudain, il rapporte la vision très rapide d'un massacre. De quoi s'agissait-il? Jérémie avait-il compris qu'il s'agissait de Rachel, mère de Benjamin, qui, par Joseph, exilé lui aussi en exil, était l'aïeul d'Éphraïm et de Manassé? Les Juifs du temps de Jésus, enfants, pensaient-ils que Rachel avait pleuré pour les hommes de leur tribu emmenés en exil? Quant à notre Joseph, époux de Marie, son intelligence s'ouvrait maintenant. Certes, il savait aussi que la tribu d'Éphraïm était revenue à Dieu et avait été pardonnée. Mais le massacre vu par Jérémie n'était-il pas surtout celui dont venait d'être torturée la ville de Bethléem pour tuer le Messie, son enfant ? Joseph est dans une tristesse extrême, mais il ne peut rien dire. Tout était donc vrai, et Hérode voulait vraiment tuer son fils Jésus. Oui, son Jésus, car Joseph a oublié que Jésus n'était pas vraiment son fils. Il l'aime tellement. Des questions affluent en lui. Est-il assez loin de la frontière? Doit-il reprendre la route? Et Marie, doit-il tout lui dire? Très troublé, Joseph s'éloigne de ceux qui lui ont appris la triste nouvelle. Il pleure et veut à tout prix retrouver Marie, car il sent qu'il doit tout lui dire. Joseph et Marie ont beaucoup pleuré. Ils ont par moments été étonnés par leur petit enfant qui pleurait aussi avec eux. Ils avaient parlé devant lui sans faire attention, car ils n'avaient pas encore compris que ce petit enfant dont ils avaient la charge, c'était Dieu. Et Jésus savait tout, et déjà il souffrait dans son cœur toute la souffrance des hommes. Marie et Joseph tentèrent en vain de consoler leur tout petit, mais après avoir longtemps pleuré, ils se souvinrent du cantique d'Otopie et tout ensemble ils prièrent. Dieu nous a châtiés à cause de nos iniquités et il nous sauvera à cause de sa miséricorde. Considérez comment il a agi envers nous et bénissez-le avec crainte et tremblement et glorifiez par vos œuvres le roi des siècles. Pour moi, je me réjouirai en lui de toute mon âme. Bénissez le Seigneur, vous tous qui êtes le peuple choisi. Célébrez des jours de joie et chantez ses louanges. Jérusalem, cité de Dieu, le Seigneur t'a châtié à cause des œuvres de tes mains. Glorifie le Seigneur par tes bonnes œuvres et bénis le Dieu des siècles, afin qu'il rebâtisse en toi son sanctuaire, qu'il rappelle à toi tous les captifs et que tu te réjouisses dans tous les siècles des siècles. Joseph et Marie s'interrompent soudain, tous les deux ensemble. Ils regardent leur petit Jésus. C'est vraiment lui, le Seigneur. Et c'est autour de lui que se rassembleront tous les peuples. Absolument tous les peuples. Oui, toutes les nations sont déjà appelées à se rassembler autour du Seigneur. Joseph et Marie se regardent et regardent Jésus qui semble, par ses mimiques enfantines, les approuver. Marie et Joseph poursuivent « Heureux tous ceux qui t'aiment et qui se réjouissent de ta paix. Mon âme bénit le Seigneur parce qu'il a délivré Jérusalem, sa ville, de toutes ses tribulations, lui, le Seigneur, notre Dieu. » Extrait du livre de Tobie, chapitre 13. La vie de la Sainte Famille en Égypte. Beaucoup parmi nos lecteurs ont lu des ouvrages de saints et de mystiques. Quelques-uns de ces saints ont vu Jésus et sa famille vivre en Égypte. Ils ont même parfois raconté des histoires un peu extraordinaires. Sont-elles vraies ou relèvent-elles de la pure imagination? Peu importe. Ce n'est pas cela qui est intéressant. Ce qui compte pour nous, c'est de contempler la vie d'une famille ordinaire, mais essayant de se soumettre à la loi et à la volonté de Dieu. C'est cette vie simple, toute ordinaire, de Marie et de Joseph, que nous allons essayer de suivre. Seigneur, nous essayons de vous rencontrer en Égypte, là où vous avez vécu votre toute petite enfance. Heureusement que vos parents, Joseph et Marie, avaient pu retrouver dans leur exil des compatriotes exilés comme eux, mais pour des raisons différentes. La diaspora se trouvait aussi en Égypte. Et leurs compatriotes avaient réussi à construire une petite synagogue où ils pouvaient se retrouver, prier surtout le jour du sabbat, et confier leurs enfants afin qu'ils soient enseignés et qu'ils deviennent de vrais juifs. Il y avait aussi une petite garderie où les petits de 2 à 5 ans pouvaient attendre leur maman pendant qu'elle faisait des courses qui exigea d'elle toute leur attention et aussi leurs bras lorsque les objets achetés étaient trop encombrants. Est-ce que Jésus a fréquenté ces petites garderies? Probablement, car on ne peut pas imaginer que Marie ait laissé Joseph seul se débrouiller quand il allait se procurer les fournitures nécessaires à ses travaux de menuiserie ou de charpente. Peut-on imaginer le comportement de Jésus au milieu des tout-petits? Incontestablement, car Jésus était un enfant comme les autres, malgré sa gentillesse exceptionnelle. Et l'on peut aussi facilement imaginer Jésus jouant avec les autres petits et leur montrant comment, avec de simples petits cailloux et des brindilles de bois, on pouvait construire des petites maisons et même des châteaux. Jésus était déjà très aimé. Comment la famille vivait-elle en Égypte ? Tout simplement comme vivaient à l'époque les familles du peuple, qu'elles soient juives ou égyptiennes. Pourtant, il y avait une grande différence. Joseph, et surtout Marie, faisaient extraordinairement bien les choses ordinaires. Les membres de l'Opus Dei d'aujourd'hui se seraient-ils inspirés, pour leur devise, de la vie ordinaire de la Sainte Famille ? Essayons de suivre la Sainte Famille tout au long d'une journée. C'est le matin. Joseph et Marie se lèvent et chacun de son côté se met à prier. C'est une prière courte, personnelle, une offrande à Dieu de la journée qui leur est accordée. Puis Joseph va chercher de l'eau à la fontaine voisine pendant que Marie s'occupe du petit. Joseph arrive avec son eau fraîche et Marie en prend un peu pour le déjeuner très frugal mais nourrissant. Joseph a besoin de force, d'autant plus qu'aujourd'hui il doit aller sur un chantier délicat monter la charpente d'une grande maison. Il en parle à Marie qui lui assure que tout se passera bien. Et Jésus confirme dans son langage d'enfant. Joseph est parti. Marie doit nettoyer et ranger sa petite maison. Jésus veut l'aider. Aussi Marie lui confectionne-t-elle un petit balai avec de légers branchages. Jésus balaie et Marie le regarde. Vraiment, cet enfant s'y prend très bien. Marie est fière de son fils et chantonne tout en travaillant des fragments du psaume 8. Yahvé, notre Seigneur, que ton nom est glorieux sur toute la terre, toi qui as revêtu les cieux de ta majesté. Par la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle, tu t'es fondé une force pour confondre tes ennemis, pour imposer silence à l'adversaire et au blasphémateur. Jésus a fini son balayage. Il écoute sa maman chanter et il essaie de chanter avec elle. Marie le reprend de temps en temps car il y a des paroles très mal prononcées. Alors Jésus reprend et Marie s'émerveille. C'est très bien. Il est temps maintenant d'aller acheter quelques légumes. Il reste du pain qu'elle a fait hier, mais avec la chaleur égyptienne, les légumes cuits ne se conservent pas. Il faut donc aller en chercher tous les jours sur le marché du village. Jésus aime beaucoup aller au marché avec Marie, car exposé à même le sol, les étalages sont à sa portée. Très doucement, il touche parfois les jolis fruits présentés. Et ce faisant, il sourit aux marchands qui lui font tous des caresses, même s'ils sont égyptiens. Cet enfant est si gentil. Et puis n'est-ce pas pour eux aussi que Dieu s'est incarné ? Cela, personne, en dehors de Marie et de Joseph, ne le sait encore. L'heure n'est pas encore venue, mais Jésus veut déjà faire pressentir toute la tendresse de Dieu. La tendresse de Dieu, comme elle est grande. Comme Dieu sait montrer son amour à tous les hommes qu'il a créés et qu'il veut heureux. Toutes les personnes qui regardent Jésus pendant que Marie fait ses courses essuient une larme quand elles voient ce petit enfant bien-aimé obligé de s'en aller avec sa maman. De retour à la maison, et avant de commencer à préparer son repas, Marie appelle son petit et tous les deux prient et remercient le Seigneur. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ça, c'est le psaume 141. Je crie vers toi, Yahvé. Je dis, tu es mon refuge, mon partage sur la terre des vivants. Psaume 142. Et puis, je veux t'exalter, ô mon Dieu, ô roi, et bénir ton nom à jamais et toujours. Je veux chaque jour te bénir et célébrer ton nom toujours et à jamais. Psaume 145. Joseph arrive, il est tout joyeux. Son travail va bien, son équipe a été remarquable. Tout se finira parfaitement. Joseph reprend avec Marie et Jésus la prière qu'il chantait et l'on se met à table. Tout le monde a bon appétit car le travail donne faim. L'après-midi, Joseph retourne à son travail. Marie, elle aussi, va travailler. Elle sort son métier à tisser. Aujourd'hui, elle doit commencer un vêtement pour le petit qui joue tranquillement à côté d'elle. Vers la fin de l'après-midi, elle habille l'enfant pour aller faire une promenade tout en fredonnant. Oui, À Dieu mon âme en paix s'abandonne, de lui vient mon secours. Oui, il est mon rocher et mon salut. Psaume 62. Et puis, quand je pense à toi sur ma couche, je médite sur toi pendant l'éveil de la nuit. Car tu es mon secours et je suis dans l'allégresse à l'ombre de tes ailes. Mon âme est attachée à toi, ta droite me soutient, ô mon Dieu. Psaume 63.